Tu as déjà regardé une amie rester dans une relation et penser « elle mérite tellement mieux ». Je veux dire vraiment regarder, assis en face d'elle dans un restaurant où les verres laissent des cercles humides sur la table, à l'écouter raconter pour la troisième fois la même absence, la même promesse déplacée d'une semaine. Tu hoches la tête, la bouteille se désemplit. Elle sourit en minimisant, comme si elle polissait elle-même les angles de son histoire pour qu'elle fasse moins mal. Et pendant qu'elle parle, quelque chose en toi résiste. Pas contre lui, pas contre elle bien sûr, contre cet espace invisible où elle rétrécit ses attentes en direct avec élégance. Elle dit « ce n'est pas si grave » et tu sens physiquement le poids de cette phrase, une petite pierre posée dans la poitrine. Tu voudrais la lui enlever, lui dire « regarde-toi » de l'extérieur. Mais l'amour a cette particularité étrange, vu de l'intérieur,
il redessine les proportions.
Ce qui paraît minuscule à l'extérieur peut devenir immense quand on y habite.
Why do nice people choose the wrong people to date?
Are we talking about anyone specific? We accept the love we think we deserve.
Cette phrase, popularisée par The Perks of Being a Wallflower, on l'entend souvent en pensant aux autres, à cet ami, à sa patience trop large, à ses justifications soigneusement construites. C'est confortable de la placer dans son histoire à elle. Plus difficile de remarquer le léger vertige qui nous traverse quand la question se retourne, presque imperceptible. Et moi? Parce qu'au fond, ce qui nous trouble dans ses choix n'est pas seulement ce qu'elle accepte. C'est la familiarité de ce geste, cette manière très humaine d'aménager la réalité pour qu'elle corresponde à ce que l'on croit pouvoir recevoir. Et en la regardant faire, dans le cliquetis des verres et le poids du bistrot, on assiste peut-être à une scène plus universelle. La négociation silencieuse entre notre désir d'être aimé et l'image souvent périmée que nous avons de notre propre valeur. En la regardant parler, tu remarques des détails minuscules que tu n'aurais jamais vus chez un inconnu. La façon dont ses doigts effleurent le bord de la table quand elle hésite. Ce petit rire qu'elle ajoute à la fin des phrases trop sérieuses. Comme un coussin posé sous ses propres mots. Elle raconte et tu entends deux récits superposés. Celui de sa relation et celui plus discret de la manière dont elle a appris à occuper l'amour. Personne n'invente sa façon d'aimer à l'âge adulte. Elle arrive déjà écrite en brouillon. Quelque part, bien avant ce déjeuner, il y a eu d'autres scènes, des cuisines où l'affection circulait avec des conditions, des salons où le silence durait un peu trop longtemps après des disputes, ou au contraire, des maisons où l'amour était présent mais imprévisible. Distribué par vagues. On grandit dans ces climats sans les questionner. Le corps les enregistre comme une météo normale. Alors plus tard, quand ton ami attend un message qui ne vient pas et qu'elle dit « ce n'est pas grave », il ne s'agit pas seulement de cette relation-ci. Il s'agit d'un seuil de tolérance construit lentement, presque artisanalement, au fil des années. La psychologie appelle ça la familiarité. Nous sommes attirés moins par ce qui nous rend heureux que par ce qui nous semble reconnaissable. Un paysage affectif déjà cartographié. Certaines formes d'amour paisible déroutent. Elles n'offrent rien à réparer, rien à mériter. Et pour quelqu'un qui a appris très tôt que l'amour sut gagner, cette gratuité peut produire une inquiétude subtile. Comme entrer dans une pièce trop silencieuse et chercher instinctivement le bruit de fond auquel on est habitué. dont l'ami continue de parler. Le restaurant s'est rempli, les voix se superposent, et tu comprends que ton malaise ne vient pas seulement de ce que tu veux pour elle. Il vient de la reconnaissance intime d'un mécanisme que vous partagez tous les deux. Nous portons nos premières géographies affectives comme des cartes invisibles. Elles orientent nos pas bien après que nous avons oublié qui les a dessinées. Et probablement le plus perturbant dans tout ça, c'est que le familier ne se présente jamais comme un piège. Il ressemble à un domicile, je dirais même une maison. Même quand les murs sont trop étroits, même quand l'air y circule mal, il y a un confort dans le fait de connaître chaque recoin. Ton ami décrit encore une scène, je sais pas, une dispute avortée, un message laissé sans réponse. Et tu remarques la précision avec laquelle elle enlisse les aspérités. Elle ne ment pas, elle réorganise. Elle raconte l'histoire de façon à pouvoir y rester. Le cerveau a une fidélité étrange. Il préfère une douleur prévisible à une joie incertaine. La psychologie parle de répétition, presque d'attraction gravitationnelle, vers ce qui ressemble à nos premiers paysages affectifs. Mais dans la bouche de ton ami, cela prend une forme beaucoup plus simple. Elle dit « Au moins, je sais à quoi m'attendre. » Et dans cette phrase se cache une vérité inconfortable. Savoir à quoi s'attendre peut parfois compter plus que d'être heureux. Alors tu l'écoutes et tu sens combien l'intensité peut se déguiser en profondeur. Les relations instables occupent tout l'espace mental. Elles créent une vigilance constante, une lecture obsessionnelle des signes. Chaque message devient un indice, chaque silence, une énigme. Le corps s'y habitue comme une manière trop vive, on appelle ça passion. Mais le système nerveux y reconnaît surtout l'alerte constante. On va pas se cacher, quitter ce type de dynamique demande un courage particulier. Et pas seulement le courage de partir, mais celui d'entrer dans un territoire moins spectaculaire. Un amour où rien ne brûle, où l'affection ne se prouve pas par la peur de perdre. Pour quelqu'un habitué aux secousses, cette stabilité peut sembler presque vide au début. Comme un paysage dégagé, sans relief après des années passées en ville. Ton ami s'interrompt. Elle te regarde, cherche dans ton visage une validation silencieuse. Et pendant une seconde, la scène se renverse. Ce n'est plus seulement elle que tu vois. C'est la manière universelle dont nous apprenons tous à négocier avec ce que nous pensons mériter. La question cesse d'être théorique. Elle devient intime, presque tactile. Qu'est-ce que je reconnais comme de l'amour? Parce que c'est tout ce que j'ai appris à reconnaître. La brasserie continue de bruire autour de vous. La vie ordinaire reprend sa place, mais la question reste suspendue, discrète et persistante. Elle n'accuse personne. Elle ouvre simplement un espace, celui où l'on peut commencer à observer ses propres cartes invisibles. Et peut-être, très lentement, en redessiner les contours. Et elle a un peu d'espoir. Tu ne lui dis rien de tout ça. En tout cas, pas tout de suite. Les conversations importantes ont besoin d'un rythme respirable. Changer ce que l'on accepte en amour ne commence presque jamais par une grande décision spectaculaire. Cela commence par une observation très fine. La capacité de se surprendre en train de justifier l'injustifiable. D'entendre dans ses propres phrases l'endroit où l'on se rétrécit pour que la relation tienne. Ton ami sourit, elle rigole aussi, elle passe à un autre sujet. Le monde ne s'est pas transformé pendant cette conversation. Rien n'a été résolu. Et pourtant quelque chose a légèrement bougé. Et bien sûr, c'est pas dans sa relation, mais dans ton regard. Tu la vois avec une tendresse nouvelle. Non pas comme quelqu'un qui se trompe, mais comme quelqu'un qui navigue avec des cartes qu'elle possède, comme nous tous. Et c'est là que réside le premier déplacement, comprendre que nos choix amoureux ne sont pas des verdicts sur notre valeur, mais des indices sur notre histoire. Ils pointent vers les endroits où nous avons appris, très tôt, ce qui était disponible pour nous. Et cette compréhension n'a rien d'une condamnation, Elle est une invitation. Une invitation à grandir patiemment ce que nous pensons pouvoir recevoir. Cela peut ressembler à des gestes presque invisibles. Refuser une parole qui diminue. Accepter un compliment sans le détourner. Rester présent quand quelqu'un nous offre une affection simple, sans chercher la faille. Ce sont des ajustements minuscules, mais ils déplacent lentement la frontière de ce qui nous semble possible. Vous quittez la salle ensemble, l'air extérieur est plus frais, la ville continue avec son indifférence habituelle. Ton ami marche à côté de toi, intact dans sa complexité. Tu ne sais pas ce qu'elle choisira demain, ni ce que tu choisiras toi-même. Mais vous emportez avec vous cette certitude douce. L'amour que nous acceptons n'est pas une sentence figée. C'est un territoire vivant. Et chaque fois que nous apprenons à regarder, à nous regarder, avec un peu plus de justesse, un peu plus de générosité, ces frontières reculent. Pas brusquement, pas héroïquement, mais assez pour laisser entrer un jour une forme d'amour que nous n'aurions peut-être pas reconnu autrefois, et que nous pouvons enfin accueillir sans la réduire.
Can we make them know that they deserve more?
We can try.